Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on reste dans le monde des parlements. Et qu'est-ce que j'apprends, le palais de Westminster qui est menacé de ruines ?
Eh oui. Ses murs sont bourrés d'amiante, les canalisations fuient, répandant des odeurs épouvantables, les alarmes incendies se déclenchent à tout propos. Bref, sans rénovation urgente, selon une commission d'enquête parlementaire britannique de 2016, eh bien, le bâtiment est simplement menacé d'une catastrophe. Alors, pour Robert Saunders, qui est professeur d'histoire moderne à l'université Queen Mary de Londres, c'est l'image même de la crise qui affecte le système parlementaire britannique lui-même. Dans un article fort intéressant publié il y a quelque temps déjà dans le magazine New Statesman, Saunders écrit qu'il va falloir, je cite, « sauver le Parlement » parce que c'était l'une des institutions centrales de la démocratie britannique, mais que cela va exiger un bilan complet et honnête de ses récentes défaillances. Dans ce pays, la Grande-Bretagne, la démocratie, dit-il, conserve des traits pré-démocratiques. Le pouvoir est longtemps resté entre les mains d'un parlement quasi médiéval, avec sa chambre des lords et sa rite monarchique. Mais depuis l'établissement de la démocratie, il n'a pas manqué de prophètes en Grande-Bretagne, de prophètes de malheur, pour annoncer l'imminence de la fin de la démocratie. D'un côté, vous aviez, dans le mouvement socialiste comme en France, une longue méfiance envers l'idée d'un gouvernement issu de la représentation parlementaire. On lui préférait, comme la Social Democratic Federation à la fin du 19e, l'initiative ou le référendum. Et puis de l'autre, vous aviez l'anti-parlementarisme d'extrême droite, représenté en Angleterre dans les années 30 par le fasciste Oswald Mosley, qui reprenait certaines des critiques formulées au même moment en Allemagne par le philosophe Carl Schmitt. Le parlementarisme, disait Schmitt, repose sur une imposture. La politique n'est pas l'art du compromis entre représentants d'intérêts divergents, comme le prétendent les libéraux, mais un conflit sur l'essentiel. Et Mosley, lui, l'anglais, donc, se moquait de, je cite, « la fausse liberté consistant dans le bavardage ininterrompu d'un petit groupe de vieux messieurs ». Il voulait que, je cite encore, « la volonté du peuple s'exprime directement, sans subir les intrigues et les manœuvres de partis en conflit ». Alors on le sait, durant la Seconde Guerre mondiale, les élections générales en Grande-Bretagne furent suspendues et le palais de Westminster fut bombardé par les Allemands. Mais le Parlement britannique paraissait alors au sommet de son zénith et de sa splendeur. Churchill lui réservait ses meilleurs discours, il l'avait baptisé « la citadelle de nos libertés britanniques ». Pendant les années 60, des critiques se firent à nouveau entendre. Ainsi, Tony Benn, le leader du Labour, critiquait, je cite, « la philosophie obsolète du gouvernement parlementaire » et il disait aspirer au jour où chaque foyer disposerait d'un bouton pour remplacer ainsi le vieux système de la représentation par une nouvelle démocratie du peuple. Et c'est sous son influence, d'ailleurs, que le gouvernement d'Edward Heath dut procéder en 1975, un référendum sur l'adhésion du pays à l'Union européenne, deux ans seulement après que le Parlement l'ait voté à une courte majorité, il faut le dire. Mais bien sûr, le coup le plus dur infligé au Parlement l'a été par le dernier référendum sur l'Europe, celui du Brexit. La représentation populaire s'est retrouvée en décalage avec la majorité électorale.
Alors, comment, Brice, restaurer le prestige du Parlement, en tout cas selon votre professeur ?
Primo, dit-il, le Parlement est le lieu où l'on doit pouvoir simplement se parler, malgré les divergences, comme l'indique l'étymologie française du nom « Parliament », le lieu où l'on parle. Cela ne peut être le lieu d'où l'on gouverne, certes, mais c'est celui où on doit pouvoir discuter honnêtement. Deuxio, ceux qui ont été battus aux élections exerce une fonction essentielle en démocratie. Le rôle de fameux Her Majesty's Loyal Opposition est de constituer un défi permanent pour le gouvernement issu de la majorité. Et se souvenir que critiquer le gouvernement n'est pas trahir la nation. Tertio, aucun parlement ne peut lier les mains de son successeur. Ce qu'une majorité a décidé doit pouvoir être défait par une nouvelle majorité. Or, ces trois principes, dit toujours mon professeur britannique, sont l'objet d'attaques provenant des populistes. Pour eux, le peuple, on le sait, est un, il n'a qu'une volonté, et il lui revient de donner en tant que tel ses instructions à la représentation parlementaire. Bien sûr, les populistes se présentent en interprètes uniques de ce vrai peuple, et ceux qui ne partagent pas leur vue sont des traîtres et des vendus. Il faut tout mettre en œuvre, par conséquent, pour les faire taire. Ils transforment la volonté du peuple en une arme brandie contre le Parlement lui-même. Mais il faut reconnaître, d'après Saunders, que les députés portent une part de responsabilité dans le discrédit qui frappe en ce moment le Parlement britannique. À l'époque de Thatcher et de Blair, la présidentialisation du gouvernement et les gros effectifs du parti majoritaire de l'époque à Westminster ont transformé leur groupe parlementaire en un simple fan club du Premier ministre. Le sens du dialogue a été perdu par ailleurs. Il y a eu trop de cas de divorce entre les militants des partis et les députés censés représenter au Parlement. On en a eu une démonstration lorsque le groupe parlementaire travailliste à la Chambre des communes a voté une motion de défiance contre Jeremy Corbyn qui venait d'être désigné comme son leader par le Parti travailliste. Ou encore, plus récemment, lorsque Boris Johnson a remplacé Theresa May au 10 Downing Street. Conclusion, la fermeture inévitable de Westminster pour travaux doit être l'occasion de revoir le fonctionnement et le mode d'élection du Parlement britannique.